Salut, c'est Mariam.
Salut, c'est Ketevan.
Bonjour, je m'appelle Mariam.
Bonjour, je m'appelle Aïssatou.
Nous sommes les enfants de l'école Charles Péguy.
Bienvenue dans notre émission
Les Pays Nordiques
sur Radio B Les Bonnes Ondes.
Bonjour, vous écoutez Radio B.
Nous sommes les enfants de l'école Charles Péguy.
Bienvenue dans notre émission, c'est Ketevan au micro.
Accompagné de Mariam
et Léart.
Aujourd'hui, on va vous parler de voyage et d'écologie.
On va s'intéresser à la banquise et aux pays nordiques.
Pour commencer, on va parler voyage.
On est allé demander aux Burgiens quelle serait leur destination de rêve.
On écoute leurs réponses.
Dans quel pays nordique aimeriez-vous voyager ?
La Norvège. J'aime le biathlon et c'est le pays du biathlon, la Norvège.
Pour voir les fjords.
C'est tout nouveau pour moi, ça va être dépaysant.
Parce que c'est là où il y avait les Vikings.
L'Islande, c'est joli à faire.
La Finlande, c'est très naturel là-bas. C'est un pays qui me plairait bien de visiter.
Ça a l'air d'être exceptionnel.
Moi, j'aimerais bien aller en Finlande. Mon ami à côté, il y est déjà allé.
Moi, je suis allée en Finlande, mais j'aimerais bien aller en Suède.
Parce que mon ami m'a raconté son voyage et ça m'a donné envie d'y aller.
Et la Suède, parce que je sais que ça ressemble à la Finlande et mon père, il y a beaucoup visité. J'aimerais bien aller voir ce qu'il avait vu quand il était jeune.
Ça en fait des choses à voir dans le monde.
Mais voyager ne rime pas toujours avec écologie.
Connaissez-vous les conséquences du tourisme de masse sur l'environnement ?
On écoute quelques éléments de réponse.
Selon vous, quels sont les impacts du tourisme sur l'environnement ?
Trop de tourisme, de trop vouloir aller visiter de belles choses, les belles choses qu'on voudrait visiter deviennent moins belles parce qu'on pollue.
S'il y a trop de touristes, ça peut détruire l'environnement. Ça, parce que s'il y a trop de monde qui marche sur les plages, dans les prés, ça peut les abîmer.
Ils piétinent sur des sentiers qui ne sont peut-être pas faits pour être marchés.
Ah, c'est pas terrible et ça fait beaucoup de dégâts pour la nature.
Beaucoup de déchets, beaucoup de pollution et c'est dommage.
Ça peut être la pollution des gens parce que des fois les gens ils vont pas respecter le tri des déchets, etc.
Sur la couche d'ozone, à cause de l'avion plutôt, de prendre l'avion.
Bah forcément, avec les avions, c'est pas fameux. Moi, je pense que c'est plus négatif que positif.
Moi aussi, je pense que c'est positif au niveau argent parce qu'ils rapportent beaucoup de sous pour des pays. Par contre, ils polluent beaucoup.
Bah, c'est bien pour le développement du pays, mais après, ça dépend dans quelle région.
Enfin, le tourisme en lui-même, c'est pas le problème. C'est le touriste en masse qui peut poser problème déjà pour les habitants, aussi pour l'environnement en règle générale.
Merci à toutes et à tous pour ces réponses.
En résumé, pour voyager, il vaut mieux essayer de voyager moins loin, d'éviter de prendre l'avion et lorsque c'est le cas, d'éviter de prendre plusieurs avions de suite.
C'est aussi intéressant de partir moins souvent, mais pour des durées plus longues.
Nous sommes accompagnés de Morgane Monneret.
Elle est photographe et a parcouru de nombreux pays.
Bonjour Morgane.
Bonjour.
Pour commencer, peux-tu te présenter ?
Je m'appelle Morgane Monneret, je suis photographe. Je me suis spécialisée depuis quelques années dans la photographie d'expédition et particulièrement de l'expédition polaire. Donc ça veut dire que je pars travailler sur des bateaux de croisière, donc avec du tourisme, enfin pour le tourisme, dans les régions polaires du nord et du sud de la planète, l'Arctique et l'Antarctique.
Comment devient-on photographe ?
En pratiquant beaucoup. Il faut énormément s'entraîner, énormément photographier, pratiquer. C'est comme ça qu'on devient photographe.
Pourquoi certains de tes clichés sont en noir et blanc et d'autres en couleur ?
J'aime beaucoup mixer les visuels. J'aime que la manière dont on regarde les choses change. En fait, le noir et blanc, ça attire l'attention sur des informations différentes d'une image. Ça va attirer plus l'information sur la composition, la lumière. Ça va simplifier, en fait, tout ce qui va arriver dans nos yeux pour qu'on comprenne mieux le message. Donc, j'aime bien faire du noir et blanc, mais j'aime aussi beaucoup la couleur. Et les mettre en parallèle, ça fait que ce qu'on a compris dans la photo en noir et blanc, on va aussi le comprendre dans la photo en couleur. Parce qu'on voit tout le temps des photos en couleur partout, tous les jours, des milliers et des milliers. Et on fait plus trop attention à comment elles sont composées, ce qu'elles racontent, ou même tout simplement les couleurs qu'on voit dedans. Donc le noir et blanc, ça me permet de simplifier. Et de les mettre à côté, ça permet de faire des parallèles et finalement de simplifier aussi la couleur. J'aime bien la dynamique que ça donne d'avoir les deux.
Pour toi, c'est quoi une photo qui émerveille ?
Une photo qui émerveille, c'est une photo quand on la regarde, on ne peut plus enlever ses yeux. on la regarde et les yeux sont bloqués et on fait « waouh ». Et c'est une photo qui nous fait nous poser des questions, où on ne comprend pas forcément tout de suite ce que c'est, où on se demande comment, pourquoi, où on se pose des questions.
Combien fais-tu de photos avant d'avoir un cliché que tu vas garder ?
Ça dépend. Des fois, une seule, pas souvent. Beaucoup. J'ai pas de quantité. En général, quand je fais une photo, je sais d'avance à quoi je veux qu'elle ressemble, cette photo. Peut-être que je vais en faire 10 ou 20 pour réussir à avoir celle que je voulais. Et puis des fois, en fait, je vais garder la première que j'avais faite de toute la série. Ça dépend. Et des fois, je peux passer une journée entière à faire 200, 300 photos et pas en garder du tout. Ça dépend.
Quel est le pays que tu as préféré photographier ?
Il y en a plein. Ça, c'est une question vraiment difficile, ça. Je peux vous dire mon top 3. L'Antarctique, c'est pas un pays, mais c'est un endroit dans le monde qui n'appartient à aucun pays, mais qui est vraiment particulier. Donc, Pôle Sud. Ensuite, le deuxième, c'est le Groenland. J'ai vraiment été touchée profondément par le Groenland. Et le troisième pays que j'ai aimé photographier, c'est les Marquises. Donc, c'est une partie de la Polynésie française, pour des raisons complètement différentes. Il fait beaucoup plus chaud là-bas, mais c'est très beau.
Qu'est-ce que tu as photographié là-bas ?
En Antarctique et au Groenland, ce que j'ai photographié le plus, c'est la glace, évidemment, parce qu'il y a énormément de glace. Et la glace, c'est très photogénique parce que c'est très riche, ça a plein de couleurs différentes, plein de matières différentes, plein de formes, de tailles, ça reflète la lumière différemment. Et puis, il y a de la vie dessus. Donc au sud, il y a les manchots, essentiellement, en Antarctique. Et puis, dans la mer, la glace, on peut voir autour des orques, des baleines, plein d'animaux marins, des phoques. Et au nord, il y a les ours qui vivent sur la glace. Donc voilà, ce que j'ai photographié essentiellement, en plus des animaux, c'est la glace. Ça, c'est vraiment la base.
Et dans la région, qu'as-tu aimé photographier ?
Dans notre région ici, autour de Bourg-en-Bresse, ce que j'aime photographier surtout, c'est les oiseaux. Dans les Dombes, on est assez riche de ça. Ouais, j'aime bien photographier les oiseaux.
Sur certaines de tes photos, les animaux ont l'air de poser. Comment t'y prends-tu pour arriver à ce résultat ?
Alors ça, c'est une question intéressante. Comme je le disais juste avant, quand je vais faire une photo, en fait, je l'ai déjà presque dessinée dans ma tête. C'est pas quelque chose que je veux vraiment capturer comme ça, par surprise. C'est quelque chose que j'anticipe. J'attends que l'animal soit dans la position que je voulais, où on a l'impression qu'il pose. En général, il pose pas du tout, hein. C'est vraiment très furtif. Par exemple, un ours où on a l'impression qu'il me regarde, en réalité, il va être en train de tourner la tête, et moi, je vais prendre la photo au moment où sa tête, elle est pile dans ma direction. Et ça dure une mini centième de seconde. Et c'est ce moment-là que j'ai fixé et qui fait qu'on a l'impression qu'il pose alors qu'en fait pas du tout. Et voilà, c'est comme ça que je travaille. Il faut beaucoup de patience en fait. Il faut beaucoup attendre et être très très attentif et anticiper ce qui va se passer.
À quelle distance tu t'approches des animaux ?
Ça dépend des animaux. Ça dépend de la distance à laquelle je peux m'approcher physiquement en fonction de mon environnement et aussi la distance à laquelle j'ai le droit. Donc quand je suis sur un bateau, je peux pas aller près des animaux plus près que eux sont du bateau. En fait, je suis limitée par ça. Donc après, j'ai des zooms ou des fois, c'est intéressant aussi de pas avoir de zoom et d'avoir beaucoup d'espace et d'environnement autour de l'animal. Et après, quand je suis à terre ou sur la glace avec les animaux, bah, je vais m'approcher jusqu'à la limite autorisée. En Antarctique, on n'a pas le droit de s'approcher à moins de 5 mètres des animaux. Pour justement respecter leur distance de sécurité, pas respirer comme eux. Et puis des fois, c'est les animaux qui s'approchent. Les manchots, par exemple, ils sont extrêmement curieux. Donc quand on est à terre ou sur la glace avec eux, eux, ils viennent vraiment tout près. Ils viennent nous voir, ils viennent nous sentir. Ils sont très très curieux. Donc là, c'est eux qui s'approchent, c'est pas moi.
Quelles règles doit-on suivre pour respecter leur environnement ?
Ça dépend. Ça dépend des régions. Ça dépend de si les animaux sont protégés ou pas. La règle la plus basique, c'est qu'il ne faut pas les déranger. Quelquefois, on peut s'approcher assez près et on voit qu'ils s'en fichent complètement, on ne les dérange pas. Mais parfois, même sans aller à la distance réglementaire, on voit qu'ils ne sont pas bien, qu'ils ont un comportement bizarre ou qu'ils partent. Et là, on les dérange, donc il ne faut pas s'approcher plus près que ça. Donc ça dépend. Et puis, il y a des animaux dangereux. Les ours polaires, c'est extrêmement dangereux, donc on ne s'approche pas. Et en général, on n'est même pas en même temps qu'eux au même endroit. S'ils sont sur la glace, nous, on est sur un bateau. S'ils sont sur l'eau, nous, on ne peut pas être sur l'eau en même temps. Il ne faut pas qu'on soit sur le même environnement en même temps, parce que c'est très, très dangereux.
Sur ton site internet, dans les galeries Groenland et Amérique centrale, on a vu des gens. Qui sont-ils ?
C'est les gens qui habitent dans les pays que je visite. En Amérique centrale, les gens que vous avez dû voir, c'est au Panama. C'est une population qui s'appelle les Embera. C'est une population native, donc c'est des gens qui habitent au Panama et dans les pays d'Amérique centrale depuis toujours, depuis avant l'arrivée de Christophe Colomb avant l'arrivée des Européens. Et les gens que j'ai vus au Groenland, c'est une population qu'on appelle les Inuits. C'est les gens qui vivent dans le nord de la planète. Pas que au Groenland, hein. Ils sont aussi au Canada, ils sont aussi en Russie. Tout le nord, c'est les populations natives.
Comment s'est passée ta rencontre avec eux ?
Ça s'est bien passé. Comment ça s'est passé ? Alors moi, je voyage avec des touristes. C'est des rencontres qui sont organisées en avance, parce qu'on ne va pas comme ça chez les gens sans prévenir nulle part dans le monde. Il y a des gens qui sont en charge de l'organisation des rencontres, donc ils téléphonent ou ils rentrent en contact avec ces gens-là qui n'ont pas forcément le téléphone tout le temps. Et on organise la rencontre, donc on leur dit voilà, il y a un bateau avec une centaine de personnes qui vont venir. Et voilà, et c'est un échange. En fait, eux, ils sont aussi curieux que nous. Donc nous, on va voir comment ils vivent, et ils vivent très différemment de nous, des Occidentaux. Et en fait, eux, ils sont aussi très curieux de nous voir arriver parce qu'on vit différemment d'eux, on est habillés pas pareil. Et on parle pas la même langue, et voilà, donc y a toujours cet échange. Très souvent, ils viennent visiter le bateau aussi, donc nous, on visite leur village, et en échange, ils visitent notre village, entre guillemets, parce que le bateau, c'est là où on vit.
Comment as-tu communiqué avec eux ?
Alors, les Mbera, ils parlent espagnol, donc j'ai communiqué un peu en espagnol. Et les Inuits au Groenland, il y en a quelques-uns qui parlent un petit peu anglais, mais pour la plupart, ils parlent que la langue inuite. Donc on communique de manière très simple, hein. On communique avec le regard, avec les mains, avec les gestes. C'est assez fluide en général, ça se passe assez bien la communication.
Il faut une autorisation pour prendre des personnes en photo ?
Bah oui, il faut leur autorisation. Pour prendre quelqu'un en photo, il faut toujours lui demander avant. Et si on ne parle pas la même langue, simplement, tout le monde sait ce que c'est qu'un appareil photo. Donc le fait de lui montrer l'appareil photo, ça suffit et on voit si la personne, elle accepte ou si elle n'accepte pas.
Sur ton site, tu dis que l'homme a un impact sur l'environnement. Qu'as-tu constaté dans les endroits où tu es allé ?
On constate pas mal de choses. Bah, on constate, dans les régions polaires, on constate que la glace fond beaucoup. Il y a 2 ans, je suis allée au pôle Nord, donc vraiment le 90 degrés Nord, le sommet de la planète, si on peut dire. Et on a navigué essentiellement dans l'eau. Il y avait presque plus de glace à ce moment-là, c'était au mois de juillet. Donc ça, ça se voit. Et puis, il y a des icebergs, quand il fait très très chaud au mois de juillet aussi, qui font des cascades. Ils fondent par le haut et pas par le bas. Normalement, un iceberg, ça fond par le bas, quand le contact avec la mer. Et quelquefois, ça arrive qu'ils fondent par le haut. Et puis voilà, puis après il y a les gens qu'on rencontre aussi là-bas, les Groenlandais. Une année de canicule, ils étaient en t-shirt et ça, ça leur arrive jamais. C'est pas du tout normal pour eux. Donc ils nous le disent aussi.
Selon toi, comment pourrait-on faire pour moins polluer ?
Je sais pas moi comment on peut faire pour moins polluer. C'est pas mon métier de forcément réfléchir à ça. Mais je pense que simplement le fait de se poser cette question, comment on peut faire pour moins polluer, c'est déjà un pas, c'est déjà beaucoup. C'est comme ça qu'on commence en fait à essayer de moins polluer. Après, quand on va dans les régions polaires, ce qui est très simple, c'est qu'il faut pas laisser de traces. Nous, ce qu'on nous dit tout le temps, la seule chose qu'on a le droit de laisser, c'est nos traces de pas. On ne doit jamais laisser aucune ordure, aucune autre trace. On n'a pas le droit d'écrire dans la neige, par exemple, tout bêtement, même si ça fond. Faut jamais laisser tomber un mouchoir de sa poche, jamais un déchet par terre, bien sûr. Et quelquefois, on n'a même pas le droit de laisser des empreintes de pas. Quand on va en Antarctique, par exemple, et s'il vient de neiger, que la neige est fraîche, on peut faire des traces de pas où on s'enfonce jusqu'au genou. Donc ça veut dire qu'on va faire un trou de entre 30 et 50 cm. Et ça, on n'a pas le droit, parce qu'un manchot, il y a des manchots qui sont très gros, mais il y en a qui sont petits. Et un manchot qui est petit, qui tomberait dans un trou de botte, ben peut-être qu'il ne pourra pas sortir et qu'il va mourir. Donc on essaye de même pas laisser des traces de pas à certains endroits. C'est déjà une petite partie de réponse, je pense. Pour moins polluer, il faut essayer de ne pas laisser de traces là où on va.
Merci Morgane pour toutes ces explications.
Merci à vous.
À présent, c'est à vous, auditeurs, de tester vos connaissances sur les pays nordiques.
Bienvenue dans notre quiz.
Ketevan a une première question pour vous.
Parmi ces animaux, trouve quel est l'intrus ? Réponse A, le renard polaire. Réponse B, l'ours polaire. Réponse C, le loup gris. Et réponse D, le coyote. C'est l'ours polaire, car ce n'est pas un canidé. Il appartient à la famille des ursidés. Les canidés sont des carnivores. Ils ont des oreilles droites, de longs museaux, des canines, de longues pattes et une queue touffue.
Merci Ketevan pour cette question.
Maintenant, c'est au tour de Léart.
Le glouton est un animal omnivore à dominance carnivore. Il ressemble à un petit ours brun. Il pèse entre 8 et 18 kilos. Selon vous, à quelle famille appartient le glouton ? Réponse A, les canidés. Réponse B, les ursidés. Réponse C, les mustélidés. Réponse D, les félidés. C'est la réponse C, les mustélidés, comme le blaireau ou la belette.
Merci pour cette information.
À Aïchatou maintenant, de nous poser une question.
Selon vous, qu'est-ce qu'un pigargne à la queue blanche ? Réponse A, un serpent. Réponse B, un aigle. Réponse C, un rongeur. Réponse D, une truite. C'est la réponse B, c'est un aigle. On l'appelle aussi le grand aigle de mer.
Ce doit être un joli oiseau. Mariam, quelle est ta question ?
En Norvège, il y a beaucoup de fjords. Ce sont de grandes falaises renfermant un cours d'eau en surface. Leur eau est douce, oxygénée et riche en nutriments. En profondeur, l'eau est sombre et sale. À votre avis, où trouve-t-on le plus de poissons ? À la surface ou dans l'eau profonde ? C'est dans l'eau de surface. Les conditions de vie sont en effet bien meilleures pour les poissons. Maintenant, il nous reste que la question de Mariam.
Le tourisme de masse a des effets négatifs sur la banquise et ses animaux. Selon vous, quel est le principal problème du tourisme dans ces régions ? Réponse A. Les touristes mangent tout le poisson et les prédateurs n'ont plus rien à manger. Réponse B. Les touristes dérangent les animaux et peuvent répandre des bactéries. Réponse C. Les animaux n'aiment pas être pris en photo. C'est la réponse B. Car les touristes dérangent les animaux. Cela pose notamment problème lors des périodes de ponte ou de mise basse. Ils peuvent également répandre des bactéries et emmener ainsi de nouvelles maladies. On pourrait aussi ajouter la pollution.
C'est la fin de notre quiz.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez compris des choses.
On continue cette émission avec une lecture. Aujourd'hui, nous recevons Gaëlle Heureux.
Elle anime l'émission Les décroissants tout chauds. Elle va aussi nous lire un extrait d'un article sur les ours blancs.
Bonjour Gaëlle.
Bonjour.
Pour commencer, peux-tu te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc, je suis Gaëlle. Je suis bénévole à Radio B depuis... ça doit bien faire 5-6 ans maintenant. J'animais une émission avant qui s'appelait Encore Heureux, qui était une émission consacrée à la vie des écrivains. Donc une émission sur les livres, une émission littéraire. Et puis l'année dernière, me semble-t-il, ou il y a 2 ans, donc j'ai changé de sujet pour mes émissions. Et maintenant, je parle dans les décroissants tout chauds de tout ce qui concerne l'écologie, la crise écologique, l'environnement. Je lis des livres qui porte sur ces thèmes avec ma petite fille Lola.
Pourquoi avoir voulu parler d'écologie ?
Parce qu'il me semble que c'est un sujet absolument essentiel.
Selon toi, quels sont les impacts des activités de l'homme sur l'environnement et la banquise ?
Ouh là, c'est compliqué comme question, parce que tu sais, moi je sélectionne des livres, je m'y intéresse, mais après je ne suis pas experte de ces questions-là. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que nos activités quotidiennes rejettent en fait des gaz à effet de serre, pour faire simple, ce qui produit un réchauffement, un dérèglement de notre climat. Et ça fait aussi, manque de bol, fondre la banquise.
Peux-tu nous présenter le livre que tu as choisi ?
Alors déjà, moi je vais vous lire un article que j'ai, un article qui a été diffusé sur le site du National Geographic. C'est un article de Suzanne McGrath qui s'appelle « Les ours blancs menacés par le réchauffement climatique ». Les années passent et le réchauffement climatique mène les ours à la dérive. L'Arctique se réchauffe si vite qu'il pourrait être en été largement sans glace dès 2050. Et comment les ours blancs survivront-ils alors sans leur plateforme de chasse gelée ? En août 1881, le naturaliste John Muir naviguait près de l'Alaska à la recherche de trois navires disparus dans l'Arctique. Au large de Pointe Barrow, il repéra trois ours blancs, s'ébattant de toute leur puissance dans le giron d'une étendue sauvage et glacée. Aujourd'hui, en août, le naturaliste ne verrait plus d'ours dans cette étendue glacée, mais au mieux certains spécimens nageant en pleine mer et brûlant leurs réserves de graisse, car leur habitat disparaît. Les ours blancs parcourent l'Arctique où se rencontrent l'air, la glace et l'eau. Superbement adaptés à la rudesse de l'environnement, la plupart passent toute leur vie sur la banquise. Ils chassent à longueur d'année et ne visitent la terre ferme que pour bâtir les tanières où les femelles mettent bas. Ils chassent surtout les phoques, le phoque annelé et le phoque barbu. Ils chassent aussi les morses et les belugas, qui sont une espèce de baleine blanche, je crois. La banquise est le fondement de l'environnement arctique marin. Des organismes vitaux résident sous et dans la glace, qui n'est pas compacte, mais percée de canaux et de tunnels de plus en plus petits. Diatomées, les diatomées sont des algues monocellulaires. Zooplancton, ça ce sont de petits organismes microscopiques qui vivent en suspension dans l'eau. Et crustacés, vivent par milliards dans ces glaces. Et au printemps, la lumière du soleil pénètre la glace, déclenchant l'éclosion des algues, l'apparition des algues. Les algues coulent au fond, et dans les zones peu profondes du plateau continental, elles nourrissent une chaîne alimentaire qui inclut les palourdes, les étoiles de mer, les morues du Groenland, les phoques, les morses et nos ours blancs. Les ours blancs sont environ 26 000. Ian Sterling, au Canada, les a suivis à partir de la fin des années 70. Il a observé les ours qui se gavaient de phoques au printemps et au début de l'été. Puis, les ours retournaient sur la terre ferme quand la banquise commençait à fondre, à se disloquer. Les bonnes années, les ours accumulaient une épaisse couche de graisse. Une fois sur la terre ferme, ils entraient en hibernation. Leur métabolisme ralentissait, ce qui leur permettait d'économiser leurs réserves. Dans la baie d'Hudson, précise Sterling, jusque vers le début des années 90, les ours étaient capables de jeûner durant l'été et l'automne, grâce à l'abondante chasse de printemps sur la banquise. Ils étaient capables d'arrêter de manger un grand moment, de jeûner. Mais les années suivantes, Sterling et son collègue Andrew DeRocher ont commencé à remarquer un phénomène alarmant. La population d'ours demeurait stable, ok, mais les bêtes maigrissaient. Il manquait aux ours plusieurs semaines cruciales de chasse aux phoques. Et la glaciation hivernale, toujours plus tardive, allongeait encore leur jeûne. Et dès 1999, les biologistes ont fait le lien entre la santé des ours blancs et la diminution de la banquise. Les ours ne grandissaient plus autant. Et quand ils étaient sur terre, ils maigrissaient même beaucoup. Les femelles mettaient bas moins souvent, des portées moins nombreuses, et moins d'oursons survivaient. Et alors pourquoi ? Parce que depuis le milieu du 19e siècle, l'accumulation des gaz à effet de serre réchauffe inexorablement la planète. Et la banquise fond. Alors non seulement les ours ne trouvent plus assez de nourriture, mais comme la glace est moins épaisse, elle risque davantage de dériver au gré des vents, au gré des courants, et les ours sont emportés dans des territoires étrangers, des territoires lointains. Ils s'épuisent alors à nager en pleine mer pour trouver des plaques de glace ou pour regagner la terre ferme, ce qui peut malheureusement leur être fatal. En 2008, une femelle, équipée d'une balise, a nagé sur 687 km pour rejoindre la banquise, au large de la côte nord de l'Alaska. Et son petit n'a pas survécu. D'ici la fin de ce siècle, on prévoit que l'Arctique ne sera plus que mer en été. Pour l'heure, à cette saison, des courants poussent encore la banquise contre les îles arctiques canadiennes et le nord du Groenland. Les poches de glace qui se forment ainsi pourraient permettre aux ours de survivre pendant ce siècle. Mais les scientifiques expliquent que si le monde continue à se réchauffer, même ses ultimes refuges finiront par ne plus pouvoir subvenir aux besoins de l'ours blanc, symbole de l'Arctique.
Après la lecture de cet article, nous avons quelques questions. Comment on pourrait mieux aider les ours ?
Eh bien, peut-être justement en respectant leur habitat naturel, qui est la banquise, et en essayant que cette banquise, elle conserve sa glace.
Et comment on peut faire ?
Eh bien, en évitant justement les gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. Donc, en évitant de prendre trop sa voiture, par exemple, en évitant le gaspillage, en évitant... Tout ça va ensemble, en fait. Il y a plein de petites choses que vous pouvez faire en évitant le gaspillage aussi.
Est-ce que les ours, ils ont que la banquise où vivre ? Enfin, les ours
D'après ce que nous dit l'auteur, là, sur l'article du National Geographic, Suzanne McGrath, elle nous explique que l'ours, bien sûr, il vit sur la banquise, mais il est aussi sur la terre ferme, à certains moments de l'année. Quand la femelle fait ses petits, par exemple.
Comment pourrait-on moins polluer ?
Alors, comment pourrait-on moins polluer ? Tu voulais parler aussi des transports, par rapport aux transports ? Comment est-ce qu'on peut se déplacer en polluant moins ? L'idée, c'est de prendre des transports collectifs, déjà. Bon, le bus, le train, aussi de privilégier ce qu'on appelle les modes de transport doux, comme la marche à pied. Bon, pour aller en Espagne, ça va être peut-être un peu loin. Le vélo, parce que l'avion... Ça reste quand même un mode de transport qui est assez peu accessible. Je pense que dans le monde, il n'y a que 10% en fait des gens qui prennent l'avion. Il y a énormément de gens qui ne prennent pas l'avion. C'est rare de prendre l'avion, si on voit les choses comme ça. Et l'avion, en plus, c'est quand même assez polluant, voire très polluant. Donc, éviter de se déplacer trop en avion, c'est déjà un bon point.
Et en voiture ?
Et en voiture, alors il y a les voitures électriques qui polluent moins, mais qui posent aussi d'autres problèmes parce que ces voitures électriques, elles demandent beaucoup plus de métaux, par exemple, pour leur fabrication, qu'une voiture à essence. Faut toujours creuser les questions, les problèmes, parce que des fois, on pense que c'est une bonne solution, et puis c'en est une, mais pas que.
Merci à Gaëlle d'avoir répondu à nos questions.
C'est déjà la fin de notre émission. On espère qu'elle vous a plu.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Léart.
Salut, c'est Mariam.
Salut, c'est Ketevan.
Bonjour, je m'appelle Mariam.
Bonjour, je m'appelle Aïssatou.
Nous sommes les enfants de l'école Charles Péguy.
Bienvenue dans notre émission.
Les pays nordiques.
Sur Radio B, les bonnes ondes.